pile 8h. L'heure de retrouver le journal, Florian Lafont, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. L'État en mission sauvetage. Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement souhaite acquérir les activités souveraines d'Atos, ce géant de l'informatique français en grande difficulté financière. En Espagne, la polémique continue autour de l'épouse de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol qui pourrait même annoncer sa démission aujourd'hui. Et puis en football, le PSG domine une nouvelle fois la Ligue 1. Paris a remporté son 12e titre de champion de France après la défaite hier soir de Monaco. L'État va se porter au secours d'Atos. Le géant de l'informatique est en pleine tourmente financière. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a donc annoncé hier soir sur LCI que l'État français voulait acquérir les activités souveraines du groupe. Atos, qui possède notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire. L'objectif, éviter que ces projets stratégiques, notamment militaires, passent dans les mains d'acteurs étrangers. Écoutez Bruno Le Maire sur le plateau d'LCI.
Il y a dans Atos un certain nombre d'activités qui sont stratégiques pour la nation française, stratégique pour notre souveraineté, stratégique pour notre défense, en matière de cybersécurité, en matière de supercalculateurs, en matière de nucléaire. Il y a chez Atos des activités souveraines qui doivent rester sous le contrôle exclusif de la France. Et c'est l'État qui prend l'initiative, c'est nous qui prenons l'initiative, car c'est le rôle de l'État de défendre les intérêts stratégiques d'Atos et d'éviter que des technologies qui sont sensibles, qui sont décisives en matière de supercalculateurs ou en matière de défense, puissent à n'importe quel moment, dépendent d'intérêts étrangers.
Et à noter que l'État s'est déjà engagé à prêter 50 millions d'euros à l'entreprise pour l'aider à stabiliser sa situation financière. Le gouvernement qui dépose plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique devant un agent public. Le leader de la France insoumise est en effet accusé d'avoir dressé un parallèle entre le président de l'Université de Lille et le nazi Adolf Eichmann. Le président de l'Université de Lille qui avait décidé d'annuler une conférence sur la Palestine qui était organisée sur le campus. Gabriel Attal, lui, recevra en fin de journée les représentants des différents partis politiques pour parler de la violence chez les jeunes. Un projet de concertation qui avait été annoncé par le Premier ministre après la mort de Chemseddine, ce collégien de 15 ans mort à Viry-Châtillon en Essonne. Une rencontre qui intervient après un nouveau drame. Un adolescent de 15 ans a été tué à coups de couteau samedi à Châteauroux après une bagarre. Deux personnes, un autre adolescent de 15 ans et une mère de famille ont été placées en garde à vue. Pour l'heure, le mobile de cette agression reste encore à déterminer. L'Espagne va-t-elle se retrouver sans chef de gouvernement d'ici ce soir ? Pedro Sanchez doit annoncer aujourd'hui sa décision. Le Premier ministre espagnol a laissé planer le doute sur son avenir la semaine dernière. Il songe à démissionner après l'ouverture d'une enquête pour trafic d'influence et corruption contre sa femme. Un scénario qui inquiète en Espagne, Léouard Ourel.
Oui, des milliers de sympathisants du Parti Socialiste ont manifesté samedi à Madrid pour demander au chef du gouvernement de rester à son poste. Il redoute l'organisation d'élections anticipées qui pourraient mener selon eux, à une arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Ce serait d'ailleurs tout l'objet de cette campagne de déstabilisation orchestrée selon Pedro Sanchez par ses opposants. Le dirigeant au pouvoir depuis 2018 se dit aujourd'hui épuisé par une série d'attaques sans précédent et disait vouloir prendre du recul pour réfléchir à son avenir. La plainte qui a conduit à l'ouverture d'une enquête contre sa femme émane en effet d'un collectif réputé proche de l'extrême droite, enquête portant sur des liens noués par Begoña Gomez avec des entreprises privées ayant reçu des aides de l'État.
Et la justice espagnole a demandé un classement sans suite, mais le juge chargé du dossier n'a pas encore dévoilé ses intentions. Le nombre de cas de choléra explose à Mayotte. Désormais, on en compte 26, a annoncé hier la préfecture et l'agence régionale de santé. Face à cette situation, une nouvelle unité choléra a été ouverte dans un centre médical. Et puis le foot, le PSG rafle son 12e titre de champion de France. Le Paris Saint-Germain est assuré de terminer en tête du championnat après la défaite de Monaco hier soir à Lyon, 3-2. Paris qui remporte donc un nouveau trophée après avoir encore dominé la saison, Nicolas Gomez.
Et pourtant, ce n'était pas forcément bien parti. Le nouvel entraîneur Luis Enrique est arrivé cet été dans une équipe en pleine construction, marquée par les départs de Messi et de Neymar et surtout par l'annonce de Mbappé, à savoir son intention de ne pas prolonger son contrat avec Paris, ce qui a valu à l'attaquant star une mise à l'écart du groupe pendant quelques semaines. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes, le PSG décroche ainsi son son titre avec une seule défaite à son compteur. Une défaite qui remonte à cet automne, c'était le 15 septembre dernier contre Nice. Paris qui peut désormais se concentrer sur son principal objectif, remporter sa première Ligue des Champions.
Et le PSG qui joue sa demi-finale aller de la Ligue des Champions mercredi avec un déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente matinée. À notre écoute.
Merci Florian Lafont. Vous revenez tout à l'heure aux alentours de 9h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Mais tout de suite à 8h05, nous, on va faire un point sur la météo, tenez.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
À partir d'aujourd'hui, le temps devrait devenir printanier avec des températures en hausse, même si les perturbations atlantiques vont encore se succéder dans les jours à venir. Ce matin, éclaircies et passages nuageux se partagent le ciel sur l'ensemble de la Bretagne, avec des nuages plus épais sur la pointe bretonne. Des brouillards parfois denses sont présents sur les massifs bretons et dans les plaines en Ille-et-Vilaine en particulier, jusqu'au bassin nantais. Dans l'après-midi, le sud-Bretagne va bénéficier d'un temps ensoleillé, alors que le ciel va se couvrir par la pointe Finistère avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui pourra donner un peu de pluie. Le vent du sud va se renforcer en soirée sur la pointe bretonne avec des rafales de 50 à 60 km/h. Ce matin, les températures varient de 4 à 6 degrés avec localement 9 degrés près du littoral. Dans la journée, les températures maximales seront comprises entre 15 et 18 degrés en général, un peu plus basses sur l'ouest de la Bretagne, où elles oscilleront entre 14 et 16 degrés.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Voilà, avec quand même un petit peu de soleil ce matin, il faut le dire, on voit le soleil qui arrive par la baie vitrée du studio, et ça fait du bien. Il est 8h06 sur Bretagne 5. Tout de suite, François Germain nous rejoint pour nous parler jeux vidéo.
Aujourd'hui, dans votre rendez-vous jeux vidéo, la sortie d'une exclusivité PS5 qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est grande, elle est belle et surtout elle sait se battre comme personne. Faites la connaissance d'Eve, l'héroïne de Stellar Blade sur PS5. Dans ce nouveau jeu d'action-aventure, Eve débarque sur Terre, une planète qu'elle pensait éteinte, mais il n'en est rien. Elle fait la connaissance d'Adam, un survivant qui la conduit dans l'ultime ville encore debout. Débute alors une vaste mission pour sauver la Terre des terribles Neytiba, des créatures qui peuplent cette Terre désolée. Dans son périple, Eve va découvrir peu à peu les mystères des ruines de la civilisation humaine. Dans ce périple, vous allez vous battre, beaucoup vous battre. Armé de votre précieuse lame, vous arpentez les différents environnements et nettoyez la terre des Neytiba. Stellar Blade a un gameplay exigeant et il vous faudra bien maîtriser les différents coups pour venir à bout de vos ennemis. Des combats très rythmés qui font penser à Bayonetta, l'autre héroïne des jeux d'action. Évidemment, comme tous les jeux de ce type, vous débloquerez au fil de l'aventure des nouvelles capacités qui permettront à Eve d'être encore plus efficace, le tout sublimé par des équipements de plus en plus redoutables. Stellar Blade, c'est une aventure qui ravira tous les amateurs de combats tendus où la tactique est essentielle. Ici, pas question de marteler les touches d'attaque sans réfléchir, il vous faut analyser le comportement de vos ennemis pour en déceler les failles avant d'esquiver et d'attaquer au bon moment. Si vous êtes prêt à relever le challenge, foncez sur le jeu disponible uniquement sur PS5.
Et c'était François Germain qui nous parlait jeux vidéo, comme chaque lundi, dans la matinale à 8h06. Là, pour le moment, il est 8h08, à l'heure de retrouver celui qui scrute les astres pour nous en livrer les clés chaque jour sur l'antenne de Bretagne 5. Enfin, les clés à sa manière, il faut bien le dire. Voici David Christoffel et l'horoscope des méchants.
Bonjour tout le monde, Lion, alors si vous commencez à ménager les gens fatigués, vous n'en finirez plus, ça va dissoudre votre exigence, alors faites gaffe pour ne serait-ce qu'un minimum tout bête quoi. Poisson, si vous jouez avec la patience des autres, ayez au moins la correction de pas le faire exprès. Bélier, c'est pas parce que les gens lourds et pompeux ont des côtés généreux et beaux qu'on peut dire en l'air et en même temps qu'ils sont gentils, qui plus est, qu'ils sont gentils tout plein. Cancer, tapez des pieds, mais pas bêtement, tapez des pieds de manière obsessionnelle, c'est très beau, je veux dire, ça racle les nerfs de la bonne société, ce qui est très bien hein, par ailleurs. Gémeaux, tout autant, si vous trouvez la vie tranquille et sereine, je voudrais surtout pas vous réveiller, soyez donc sans haine de me voir vous ignorer. Vierge, vos amis vous agacent, en cela, ils vous apportent beaucoup, ce qui est encore plus énervant et donc très constructif, quoique vous en balance, oui c'est ça, attention, parce qu'il y a des mensonges qui riment, or donc justement, amour ne rime pas toujours avec toujours. Mais Sagittaire, alors si vous planez ou si vous ramez, de toute façon, ça vous élève, indéniablement. Scorpion, je sais que je suis pas là pour ça, mais Je vous fais quand même un gros bisou. Verseau, quoi de plus beau qu'une école? Capricorne, quoi de plus grandiose qu'un aéroport? Taureau, quoi de plus con qu'une huître? Voilà tout le monde, soyez sages.
Voilà. Voilà. Ceci dit, nous allons retrouver David Christoffel demain, c'est promis. On tâchera d'être sages. C'était l'horoscope des méchants qui nous a tous habillés, alors non pas pour l'hiver, mais pour le printemps. Donc voilà, David revient demain dans la matinale de Bretagne 5. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h10. Nous sommes lundi, c'est l'heure de retrouver Alessio Barazardi, Rito Ré, c'est comprendre. Et ce matin, Alessio vous parle depuis l'Italie où il se trouve. Il évoque la victoire des forces antifascistes sur les fascistes le 21 avril 1945, qui est devenu d'ailleurs depuis une des fêtes italiennes, des fêtes nationales italiennes. Bonjour Alessio.
Bonjour Stéphane. Une fois n'est pas coutume, je vous parle depuis l'Italie. Comme beaucoup de binationaux, j'essaye au moins une fois par an de retourner au bled, c'est-à-dire rendre visite aux oncles, tantes, cousins et petits-cousins, pas vus depuis un bail. C'est l'occasion de prendre des nouvelles, de se mettre à jour sur les changements de vie de chacun et de ressasser encore et toujours les mêmes histoires de famille depuis 20 ou 30 ans, comme si continuer à en parler pouvait peut-être un jour permettre d'en changer le cours. Bon, je ne vous apprends rien, toutes les familles ont ce genre d'histoire, même si la culture italienne a peut-être un peu plus tendance à rajouter de la théâtralité au drame. Mais, pour la première fois de ma vie, je viens de passer le 25 avril avec ma famille de l'autre côté des Alpes, ce qui est une nouveauté importante. En France, cette date ne signifie pas grand-chose. Allez, parce que ça mérite quand même d'être mentionné, le 25 avril 1905 marque la naissance de la section française de l'Internationale ouvrière, soit la SFIO, ancêtre du Parti socialiste actuel, au Congrès du Globe à Paris. Mais il y a des pays où cette date a plus d'importance. Cet événement est assez connu même par chez nous, c'est la date de la Révolution des œillets en 1974 au Portugal. Jour de fête nationale désormais, cette révolution marque alors la fin du régime fasciste du dictateur Salazar, commencé en 1933. Connue comme la seule révolution à s'être déroulée presque sans effusion de sang, elle nous apprend entre autres que le fascisme peut ne plus tenir qu'à la place qu'il prend dans notre esprit. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre, disait la Boétie, mais il faut préciser que ça marche quand même mieux quand l'armée est de votre côté. Moins connu, le 25 avril 1945 a été choisi par convention comme date de libération de l'Italie des fascistes par les partisans. Dans les faits, il s'agit du jour de la libération de Turin et Milan, occupés alors non seulement par les fascistes, mais aussi par les forces allemandes. D'un côté, ça se comprend. L'Italie ayant été très active au sein de l'Axe aux côtés du Troisième Reich, est donc considérée comme vaincue une fois la guerre terminée. Et dans le même temps, prenait place chez nous la mythologie de la résistance française, qui aurait libéré la France par elle-même, libérée par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle, comme disait l'autre. Compliqué dans ce cas de reconnaître une libération moins noble, car elle aurait été le fruit, entre autres, d'une puissance extérieure. Ici au moins, suffisamment bercé par Mussolini pendant 20 ans par le mythe du retour de la Roma Eterna, le choix est fait de rendre à César ce qui lui appartient. On ne commémore ni la défaite d'un pays adverse, ni sa propre victoire, mais la restitution de l'Italie à tous les Italiens, après de longues années de séquestration de celle-ci par les fascistes. En fait, si, on célèbre bien une victoire, celle de l'antifascisme. L'avènement de la liberté et de la démocratie que la toute jeune République italienne consacrera dans sa constitution le 2 juin 1946. On peut d'ailleurs trouver cela cocasse que l'Italie ait été tellement généreuse et fidèle à ses principes démocratiques qu'elle ait permis aux néofascistes, à ses ennemis vaincus, de siéger à nouveau au Parlement et même de prendre à nouveau le contrôle du gouvernement. Le 25 avril est le jour où nous célébrons ce choix dans toute son imperfection, car la démocratie nous sauve de la pureté et de l'uniformité du fascisme. La démocratie est aussi la maison de ses ennemis. Je vous parlais tout à l'heure des sempiternelles histoires de famille que nous avons toutes et tous. Laissez-moi vous en raconter une, qui pour le coup m'a toujours été rabâchée dans le but qu'elle soit bel et bien terminée. et qui pourtant risque d'avoir de nouveaux chapitres. À l'époque, ma famille vit à Gênes, plus grande ville portuaire d'Italie. Régulièrement sous les bombes, celle-ci décide de fuir dans notre petit village d'origine, d'où je vous écris ces lignes. Vous imaginez bien que les temps sont durs, d'autant plus que mon grand-père a été appelé à servir son drapeau en Sicile. Seule lumière dans ce triste hiver, ma tante naît un jour de décembre 1941. Qui sait alors quel avenir elle aura ? Le climat empire. Les Alliés débarquent en Sicile en juillet 1943, libèrent le sud de l'Italie jusqu'à Rome en septembre, d'où ils décident de temporiser leur avancée. Les nazis envahissent le nord, replacent Mussolini à la tête d'un état fantoche, la République de Salò, et commence alors la phase d'occupation. Comme en France, l'armée allemande patrouille, intimide, réprime. Un couvre-feu est imposé, ce qui contraint les familles voulant continuer à vivre sans suivre la course du soleil à calfeutrer leurs fenêtres du mieux possible pour qu'aucune lumière ne soit visible de l'extérieur. Sauf qu'arrive un soir d'inattention. Une patrouille passe dans la rue et aperçoit de la lumière provenant de ce qui est aujourd'hui ma chambre. Un cri, une détonation, une balle. Elle traverse le volet, la fenêtre, pour venir se ficher dans le plafond. Énorme frayeur, mais heureusement, sans autre conséquence que quelques réparations. Certaines attendront la fin de la guerre, d'autres sont faites à la hâte. C'est le cas du volet, qui devait le plus rapidement possible permettre à nouveau d'empêcher la lumière de filtrer. On rebouche le trou dans le bois comme on peut, on verra ce qu'on en fait plus tard. Aujourd'hui, il est toujours là, à sa place. On l'a repeint bien sûr, une telle relique s'entretient. Mais l'impact de cette balle nazi-fasciste est toujours là. Il permet une matérialisation du souvenir. En ces temps troubles où beaucoup y sont aveugles, il permet de le toucher du doigt, de voir le fascisme. Et vous, est-ce que vous le voyez ?
Et c'était Alessio Barazza-Ritore qui nous parlait depuis l'Italie ce matin, qui nous parlait du fascisme et de la victoire des forces antifascistes italiennes sur les fascistes. C'était le 25 avril 1945. Vous pouvez retrouver Comprendre en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h17.
Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et ce lundi matin, c'est Manon Gall qui est avec nous. Elle est secrétaire régionale Les Écologistes Bretagne. Elle est venue de Brest exprès pour être avec nous au micro de la matinale et je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler d'Europe, on en parle beaucoup sur l'antenne de Bretagne 5. C'est le moment, hein, en cette campagne électorale qui se déroule dans un climat un petit peu tendu, il faut bien le dire aujourd'hui. J'avais envie d'entendre la parole des écologistes autour justement de la politique européenne et il y a eu l'expression du président de la République, Emmanuel Macron, sur l'Europe, à la Sorbonne. On a entendu des voix écologistes dire que finalement, le président de la République n'avait pas beaucoup parlé d'écologie.
Non. Déjà, pour commencer, Emmanuel Macron se positionne comme leader pour les européennes, alors que finalement, il a toujours pas de liste constituée. D'ores et déjà, c'est un petit peu étonnant que ce soit lui qui prenne la parole sur les questions européennes. Mais quoi qu'il en soit, sur le contenu, concrètement, ce qu'on peut retenir, c'est effectivement, il y a beaucoup de choses sur la souveraineté, beaucoup de choses sur une Europe forte, tout ce qui est en relation avec l'armée, etc. Mais pas grand-chose sur l'écologie. Pourtant, il y a 5 ans, aux dernières élections européennes, c'était le maître mot, c'était l'écologie. Et en fait, on voit finalement que les macronistes, ils vont toujours en fonction de là où leur porte le vent. Alors, quand l'écologie, c'est à la mode, ben l'écologie, c'est numéro un. Alors que quand on voit qu'il y a un peu un climat où on parle un peu moins d'écologie, alors que le sujet, il est toujours présent, il est même de plus en plus présent.
On en parle même dans les flashs météo aujourd'hui, dans le bulletin météo du réchauffement climatique, par
toujours,
exemple.
Tout le monde est conscient qu'il y a un réel problème. On a vu, il y a eu énormément de tempêtes, et notamment à Brest, nous, on a vécu plusieurs tempêtes qui ont eu des dégâts considérables sur les bâtiments, sur les exploitations agricoles, sur beaucoup, beaucoup de choses. On a des inondations, des sécheresses, des pics de chaleur. En avril, on a eu un mois d'avril, c'est en fait fait, tous les mois, on a des pics de chaleur par rapport aux années précédentes. Et pour autant, Emmanuel Macron, ça n'est pas un sujet pour lui.
On n'a pas beaucoup parlé, enfin en tout cas le président de la République a beaucoup parlé d'industrialisation, de faire une Europe championne un peu de l'industrialisation, une Europe forte, une Europe souveraine. Est-ce que finalement c'est antinomique avec la cause, je vais parler de cause, la cause de l'environnement? Est-ce qu'on peut faire une Europe industrielle mais à la fois respectueuse de l'environnement?
Bien sûr, évidemment. Ce qu'on voit, ce qui manque en réalité énormément, notamment dans le pacte vert européen. Aujourd'hui, on a eu un nouveau jalon pour le pacte vert européen. Tout le monde se gargarise des acquis sur dans ce domaine-là. Et pourtant, en face, on n'a pas réellement d'argent qui est mis pour vraiment entamer ces transitions. Ce qu'il faut, c'est investir énormément pour justement aller vers plus de transition. Et ça, c'est vecteur de travail, c'est vecteur d'activité. Mais une activité qui soit vertueuse. Et on voit aujourd'hui qu'on coupe dans les budgets. Concrètement, c'est ça qui se passe hein, en Europe, en France. En France, là, dernièrement, étant donné qu'on n'a pas eu des bons résultats au niveau de la croissance française, le premier ministère qui trinque, c'est le ministère de l'Environnement. On a 2,5 milliards milliards d'euros en moins pour le ministère de l'Environnement. Et ce qui est principalement ce qui est touché, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Il faut savoir que c'est 1 milliard en moins sur la rénovation thermique, ce qui correspond à environ 150 000 logements qui ne seront pas rénovés. Ça aurait pu être vecteur d'activité, ça aurait pu être, au-delà de l'activité, évidemment, un confort pour les personnes, des personnes qui sont souvent dans la précarité énergétique. Et concrètement, on a des paroles, etc. Mais derrière, les actes ne suivent pas, on n'a pas de budget. Et c'est finalement les Français, les Européens, européennes, qui trinquent.
Avec aujourd'hui une campagne, alors on va parler de la campagne des écologistes qui est conduite par Marie Toussaint. Elle est créditée, Marie Toussaint, de 6 à 8% des intentions de vote. C'est un peu décevant. Alors, ça reste un sondage, hein, je le précise. Hein. Voilà. Ça reste un sondage.
Le match n'est pas joué, on va dire. Concrètement, quand on voit les chiffres de Yannick Jadot lors des dernières élections européennes, il était crédité à peu près au même niveau que Marie Toussaint en ce mois d'avril. Même le jour des élections, on était crédité de 6 à 8% maximum et on a fait finalement proche de 15%. Donc j'ai tendance à dire que non, le match n'est pas joué et il y a énormément de choses. Justement, il y a une campagne à mener. Les personnes, je pense que les Français, les Françaises et les Européens ne sont pas encore rentrés dans la campagne, malgré qu'on soit sur le terrain tous les jours. Mais c'est le moment justement d'en parler et j'ai aucune crainte sur le fait que on fera un bien meilleur score que ce qui est annoncé.
Il y a les jeunes qui s'intéressent beaucoup, la jeune génération qui s'intéresse beaucoup aux faits climatiques, à l'environnement, à essayer de vivre dans un environnement qui reste viable, c'est le cas de le dire, et vivable, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que les jeunes s'investissent finalement pour aller voter aux européennes? Parce qu'on dit souvent que, ben voilà, il y a les intentions, puis il y a les votes.
Les jeunes sont très politisés, contrairement à ce qu'on dit. Ils ne se reconnaissent pas forcément dans les personnes qui les représentent, ça c'est certain. Il y a des chiffres, effectivement, qui montrent que les jeunes vont moins voter ou ne vont pas tellement voter. Pour autant, ils sont très politisés. Alors, la question, c'est plutôt, est-ce que c'est notre responsabilité en tant que responsable politique d'essayer de porter leur voix? Nous, chez les écologistes, on a à cœur d'avoir des représentants qui représentent aussi la jeunesse. Et ça se ressent aussi dans les personnes qui votent pour les écologistes. C'est souvent, effectivement, nous, notre cœur de cible, on va dire, entre guillemets, c'est les jeunes. Et on a notamment... Si je peux me permettre, on a des Bretons qui sont sur la liste de Marie Toussaint, et notamment Nolwenn Henry, qui est une jeune écologiste élue à Quimper de 25 ans, qui est hyper investie. Et on a aussi qui fait partie aussi des jeunes écologistes bretons, et qui sont de plus en plus nombreux. Donc on va mettre en place plein de choses. Eux, ils vont chercher aussi des jeunes là où ils sont pour essayer de les sensibiliser aux questions européennes. Par contre, moi je pense qu'effectivement les jeunes sont très politisés. Ils ne vont peut-être pas voter, mais ils sont très politisés, ça c'est sûr.
Vous leur dites, quand vous allez tracter sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, vous leur dites, voilà, il faut voter, il faut faire ce petit geste qui est important pour la démocratie.
Oui, parce que c'est ce qui nous reste. C'est un peu terrible de dire ça comme ça, mais il y a effectivement des actions qu'on peut mener dans des associations pour faire changer les choses au niveau local. Il y a des il y a plein de niveaux en fait. Ce qu'on essaye de leur dire, c'est qu'il y a plein de niveaux d'action. On peut à son échelle personnelle faire mettre en place des choses dans sa vie quotidienne. On peut être dans des associations pour être dans une action plus collective. Mais le fait d'aller voter, c'est s'investir et c'est agir dans les instances et dans les instances à tous les niveaux. On voit, voilà, que ce soit au municipal, on a des élus. Je remercie beaucoup nos maires écologistes qui font un travail remarquable quand même depuis 2020, faut le dire, qui changent la vie de tous les Français, les Françaises. Et donc là, en Union européenne aussi, il faut aller voter pour avoir des représentants dans les instances.
Alors, un petit mot sur la politique politicienne. Là encore, ça nous ramène au discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Discours un petit peu anxiogène quand même. Emmanuel Macron disait jeudi être celui qui imaginait que l'Europe pouvait être en danger de mort si la politique prônée, en fait, continuait de s'appliquer. Est-ce que l'Europe est en danger de mort? Est-ce que ce sont les extrêmes, finalement, qui menacent la cohésion de l'Union européenne?
Ah bah, on peut pas dire le contraire, il y a une montée des extrêmes partout en Europe. C'est un constat. On peut pas dire le contraire. Et effectivement, c'est pour ça aussi qu'il faut aller voter. Et en son âme et conscience. Et aujourd'hui, on a la chance avec une élection comme les européennes, qui est une élection à la proportionnelle, à un tour. On peut voter en son âme et conscience avec le programme, les personnes qui nous représenteraient le mieux. Il faut pas être dans un vote utile ou par défaut, parce qu'on a vraiment la chance de s'exprimer et de faire exprimer ses idées. Et effectivement, il y a une montée des extrêmes, l'extrême droite en particulier, en France, partout, en fait, en Europe. Et
Même en Bretagne, qui était un peu épargnée par le phénomène jusque-là.
Oui, même en Bretagne, tout à fait. On a une montée des extrêmes, de l'extrême droite en particulier, qui, en réalité, remet en question les droits humains, qui n'est pas du tout dans une solidarité, même interétatique. Le programme de Rassemblement National, c'est un repli sur soi, concrètement. C'est la fin de la solidarité entre les pays. On parle beaucoup de la guerre aujourd'hui face à Poutine, la Russie, et puis avec Donald Trump qui peut arriver au pouvoir, et on le sait, ça arrive ça va peut-être arriver. Il faut renforcer notre armée, mais tout seul on n'y arrivera pas. Il va falloir qu'on se coordonne au niveau de l'Union européenne, et ça ne peut fonctionner que grâce à l'Union européenne, que grâce à l'Europe.
Voilà, la France ne serait pas assez puissante pour le faire.
Non, j'en ai la certitude. En tout cas, moi, je pense que le projet européen, c'est un projet de solidarité, c'est un projet où il faut qu'on puisse se coordonner et qu'on sera beaucoup plus forts les uns avec les autres, plutôt que les uns contre les autres.
On a regardé un petit peu le programme. Alors, on va pas tout le détailler, il faudrait un petit peu plus de temps ce matin, mais il y a des choses, moi, que j'ai relevées dans le programme que propose Marie Toussaint. Je rappelle qu'elle est tête de liste Les Écologistes aux élections européennes. Avec cette TVA verte, elle en a parlé plusieurs fois dans les médias, elle s'est exprimée autour de cette TVA verte. Est-ce que ça permettrait finalement de financer la transition écologique d'une part, et peut-être des projets pour décarboner d'autre part?
Tout à fait. Il y a un vrai enjeu, on a commencé par ça, pour le financement de cette transition énergétique. On l'a vu avec le rapport Pisani-Ferry, qui était par ailleurs un conseiller d'Emmanuel Macron il y a quelques années. Il y a un vrai besoin, qui se chiffre en milliards, d'investissement, d'avoir de la dette. On peut parler de bonne dette, parce qu'il y a des mauvaises dettes, on parle beaucoup de la dette, etc. Mais aujourd'hui, on a aussi de la bonne dette, la dette qui permet d'investir dans un avenir. Et donc, on a la partie, évidemment, de la dette, mais on peut aussi aller chercher des fonds un peu partout, et notamment avec la TVA verte. La TVA verte, l'objectif, c'est surtout d'orienter notamment les consommations et d'avoir des débouchés, un peu plus de débouchés pour des produits qui sont respectueux de l'environnement, du vivant. L'objectif, c'est aujourd'hui, on a les 20% que l'on connaît. L'objectif, c'est d'avoir une réduction de cette TVA, de la réduire à 5,5% sur des produits qui soient qui respectent l'environnement et qui soient vertueux. Ça permettrait notamment de reprendre de redonner un petit peu de pouvoir d'achat à la population et de favoriser des produits par rapport à d'autres.
Voilà, et puis aussi d'organiser peut-être des circuits courts. On en parle beaucoup de ces circuits courts aujourd'hui. Il y a une demande aussi du monde agricole. Alors, c'est pas simple, l'agriculture. On a vu les agriculteurs très souvent avec leurs tracteurs dans nos campagnes, dans nos rues cet an dernier, qui ont une forme de défiance aussi vis-à-vis de l'Europe. Il faut leur parler aux agriculteurs, aux paysans aujourd'hui.
Oui. Juste pour terminer simplement sur la partie financement, et après je reviens sur l'agriculture, parce que c'est un sujet très important, notamment en Europe. On a donc cette TVA verte, évidemment, mais on avait également, et je pense que ça, on en reparle un petit peu en ce moment, c'est l'ISF climatique, qui, je pense, est une source de revenus de financement important qu'on défend, que Marie Toussaint défend dans son programme. Et il y a d'autres manières comme ça de financer. Pour revenir à l'agriculture, effectivement, on a beaucoup mis la colère des agriculteurs sur les écologistes et les mesures environnementales qui sont notamment fixées par l'Union européenne au travers de la politique agricole commune. Alors qu'en réalité, les écologistes ont toujours été, et depuis toujours, pour les agriculteurs et pour plus de revenus pour les agriculteurs en particulier. Parce que finalement, c'était la demande principale, d'avoir plus de revenus.
De vivre de leur travail,
c'est
ce qu'on a pu
tout
voir.
Tout simplement. Mmh. Et ce qui est normal. Aujourd'hui, les réponses qui ont été apportées par Emmanuel Macron, ça a été réduire les normes environnementales, détricoter la PAC, avoir de moins en moins de contraintes, que ce soit sur les prairies, sur les terres en jachère, sur le glyphosate, les pesticides. On est en train de revenir également, on a deux propositions de loi en ce moment sur les néonicotinoïdes qui sont portées par le Rassemblement, par le Renaissance et par les Républicains, mmh, qui veulent revenir là-dessus. Donc on a un détricotage de tout ce qu'on avait construit sur la protection du vivant qui ne résout pas du tout la problématique des agriculteurs. Les agriculteurs, ils veulent plus de pouvoir d'achat, enfin de revenus. Mmh. Et donc, nous, ce qu'on propose, les écologistes et Marie Toussaint, c'est plutôt pour redonner du revenu, c'est éviter tout ce qui est concurrence déloyale. Mmh. Donc, être contre tous les accords de libre-échange. Jusque depuis le départ, nos députés européens, ils ont toujours voté contre tous les accords de libre-échange, ce qui n'a pas été le cas des macronistes qui ont voté pour la plupart. Là, le dernier, ils sont plutôt contre. Voilà, ils aimeraient avoir un peu profiter un peu le beurre et l'argent du beurre, profiter de certains accords de libre-échange pour bénéficier de prix moins élevés sur certains produits et puis vendre nos produits. Enfin, en fait, le beurre et l'argent du beurre avec aucune considération écologique ou climatique derrière. Donc nous, voilà, la première proposition, c'est évidemment, voilà, sur la concurrence déloyale, sortir des accords de libre-échange, et puis avoir des revenus, des prix planchers sur certains produits agricoles, et puis des garanties contre les aléas climatiques. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, voilà, les tempêtes, les inondations, ça a des conséquences très importante sur les exploitations, sur les agriculteurs. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est prévu. Rien du tout.
Voilà, donc là, il y a un chantier à conduire, à mener. On parle aussi de changer de modèle. Oui, pardon.
Si je peux me permettre un dernier élément. Changement de modèle, bah, justement, j'allais rebondir là-dessus. On a, parce que j'en profite pour vendre aussi un petit peu les candidats qui sont, en tout cas, les présenter. On a Gwenaël Floch qui est sur la liste des Européennes de Marie Toussaint, qui est un Breton qui vient d'Ille-et-Vilaine et qui, lui, a son exploitation agricole proche de Rennes et qui aujourd'hui a une exploitation qu'on peut appeler petite parce qu'il a 0,5 hectares, donc c'est une petite exploitation et qui donc ne bénéficie pas de la politique agricole commune parce que c'est une prime, il faut le savoir, c'est une prime au nombre d'hectares. En parallèle, il recrute 5 personnes. Il y a 5 personnes sur une petite exploitation. C'est absolument pas valorisé. En comparaison, dans le conventionnel, on a en général 1,5 environ emplois sur chaque exploitation. Et donc, il y a un rééquilibrage de la PAC, de la politique agricole commune à faire.
Voilà, rééquilibrage. Ce qui nous amène à ce fameux changement de modèle. Oui. Aujourd'hui, on prône un changement de modèle sociétal. En tout cas, si j'ai bien lu le programme des écologistes, ça veut dire aussi changer d'habitude. Ça veut dire aussi peut-être faire évoluer les convictions des Françaises, des Français en matière écologique, mais aussi en matière sociale. Ça aussi, c'est important, parce que souvent on dit, oui, des écologistes, bon, mais en matière sociale, il y a aussi matière, si j'ose dire, à avancer, à changer de modèle.
Alors déjà, je pense que les personnes sont, entre guillemets, prêtes. Il n'y a pas de changement de comportement, de conviction, je ne pense pas. Ce qui manque, c'est évidemment les moyens pour changer et pour justement respecter leurs convictions, parce que je pense que les Français et les Françaises, ils ont envie de manger bien. Ils ont envie de consommer local. Ce qui manque, c'est plutôt qu'on les aide à le faire.
Oui, parce que c'est pas toujours évident. Les fins de mois sont pas toujours faciles.
Complètement.
Et c'est pas toujours évident de manger bio, de bien manger simplement.
Voilà. Mais en fait, quand une politique écologiste, elle est jamais mieux faite que par les écologistes. Concrètement, pour avoir une politique écologiste, si on met en place une politique écologiste qui est pas faite par les écologistes, en général, c'est une catastrophe parce que, comme on le voit actuellement, l'écologie n'est pas du tout au centre de certaines propositions. Et puis un jour, on se réveille et bam, on met une taxe, on fait de l'écologie punitive. Mais c'est parce qu'on s'en est jamais préoccupé jusqu'à présent. Nous, ce qu'on prône, c'est d'avoir une écologie qui puisse être en phase avec l'acceptabilité sociale. On l'a vu avec les gilets jaunes. On a taxé du jour au lendemain les personnes qui déjà avaient des difficultés, la classe moyenne dont on parle beaucoup, qui avaient des difficultés pour finir les fins de mois. Bah évidemment, si du jour au lendemain ça tombe et on nous demande de changer nos habitudes, comme on dit, bah c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on souhaite, et au niveau de l'Union européenne, justement, c'est ce qui manque dans le pacte vert européen, on y revient, c'est toutes les mesures d'accompagnement social. Et toutes les politiques écologistes que les écologistes mènent, et nos maires de grandes villes et de moyennes villes, et de petites villes d'ailleurs, dont on parle moins, et communes, à chaque fois qu'ils mettent en place une politique écologiste, il y a toujours une politique sociale en face.
Voilà, c'est-à-dire équilibrer entre l'écologie et le social.
La transition.
Voilà, la transition et l'acceptabilité, évidemment, de ces politiques. On va parler d'énergie aussi. Alors là, c'est un sujet important pour les écologistes. L'énergie, aujourd'hui, l'électricité, c'est cher. On entend certaines voix qui disent « oui, c'est la faute aux écologistes qui veulent... »
C'est toujours la faute des écologistes.
qui veulent... Alors, je me fais le porte-parole de ce que on entend un petit peu de ci, de là. C'est la faute aux écologistes parce que l'électricité est chère aujourd'hui. On nous met des éoliennes. C'est pas beau, voilà, etc. Est-ce qu'il faut revenir au nucléaire? Voilà, je suis provoquant à bon escient.
Alors, le nucléaire, ça paraît être la bonne idée, mais sauf que le nucléaire, ça se fait pas du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on a un sujet qui est un mur climatique qui nous arrive. Aujourd'hui, il faut prendre les choses en main et rapidement, avant que ce soit encore plus une catastrophe que celle-là aujourd'hui. Un réacteur nucléaire, ça se met 15 ans à sortir de terre. Et aujourd'hui, on le voit, on a plein d'exemples, hein. C'est des gouffres financiers. C'est souvent énormément de retard. Et donc aujourd'hui, la solution la plus crédible, finalement, c'est de développer les énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'on doit fermer les centrales nucléaires qui sont actuellement en activité. Il faut les sécuriser, ça c'est clair. Il faut continuer à former des personnes pour sécuriser les centrales qui sont actuellement en activité. Et pour aller vers une sortie du nucléaire, parce que voilà, les risques ils existent, on les connaît, les déchets on les connaît. C'est un problème qu'on ne peut pas nier. Mais en tout cas, en termes d'efficacité, le premier, c'est évidemment donc rapidement rattraper notre retard parce qu'on est les grands retardataires en Union européenne, justement, sur les énergies renouvelables. Donc, mettre le paquet là-dessus, ça veut dire des financements. Deuxième volet, c'est la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on ne va pas y revenir, mais c'est prioritaire. Il faut vraiment rendre nos bâtiments les plus efficaces possibles.
Alors avec aussi une demande croissante en énergie, on reste un petit peu sur l'électricité, on nous vend beaucoup le modèle, on va parler de mobilité, hein, on nous vend beaucoup le modèle de la voiture électrique aujourd'hui. Bon, elle reste encore chère, même s'il y a eu des mesures entreprises pour pouvoir permettre aux ménages les plus modestes de se payer une voiture électrique. Ça reste encore cher. Est-ce que c'est vraiment écologique finalement ?
Alors moi, j'ai envie de dire, la voiture électrique, c'est l'avenir de la voiture. Mais est-ce que la voiture est vraiment l'avenir de la mobilité? C'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois. C'est qu'on va pas faire un report de toutes les voitures thermiques vers des voitures électriques. C'est pas ça la solution, parce qu'on reporte le problème.
Est-ce qu'il faut travailler sur les mobilités, les transports en commun, oui. Évidemment, on y pense dans les campagnes, parce que on a vu nos lignes de chemin de fer fermées, pas forcément rouvrir, c'est pas simple. Et donc la voiture est utile, la voiture électrique.
La voiture est utile, la voiture sera de toute manière toujours utile. Il y a des territoires dans lesquels on aura besoin de son véhicule. Évidemment, il faudra un véhicule le plus léger possible. Ça, c'est avec le moins d'électronique possible, des choses un peu sobres. Mais on ne pourra pas s'en passer partout. Par contre, on a énormément de travail à faire sur le ferroviaire, sur le transport, le fret, le transport de marchandises par le train, le transport de personnes, évidemment. Moi, j'habite à Brest, on a quand même un sujet d'accessibilité important. Et puis, dans les territoires plus ruraux, évidemment, on peut mettre en place du transport en commun, on peut mettre en place des mobilités douces, enfin, de faciliter les mobilités douces. Mais la voiture aura toujours sa place. C'est simplement... limiter la taille de ces véhicules et favoriser un maximum les transports en commun et aider les personnes à acquérir effectivement des véhicules qui soient électriques.
Alors, on a vu dans la presse il y a quelque temps, l'Union européenne prendre une décision un peu surprenante, l'autorisation des super camions, hein, plus de 60 tonnes, hein, sur les routes. Ça a posé beaucoup de questions aussi sur l'entretien des infrastructures, sur les dangers routiers finalement. Ce serait pas mieux sur le train, ces gros camions?
Si, bien sûr, ça paraît évident, mais il y a des choses comme ça qui existent. C'est comme les super gros bateaux. On essaye de. Il y a toujours une sorte de course comme ça aux plus gros véhicules, alors que c'est plus de notre temps. Je crois qu'il faut changer.
Voilà, là encore, il faut changer le modèle. Alors. On va, il nous reste quelques minutes, 4 minutes, me dit notre réalisateur, il est intraitable sur le temps. Je voulais parler des territoires, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des territoires. Là aussi, une grande mutation, on a eu la décentralisation, on parle parfois d'autonomie, c'est le cas, en tout cas ça a été enclenché par Gérald Darmanin pour la Corse en France. Peut-être pour la Bretagne, hein. On a entendu Loïc Chesnais-Girard, notre président de la région Bretagne, faire ce vœu là aussi. Est-ce que on va aller là aussi vers une Europe des territoires, mais plus l'Europe des nations, une Europe peut-être plus fédéraliste, plus régionaliste?
Alors nous, c'est ce qu'on porte, une Europe des régions. Une Europe qui soit avec des régions plus fortes, qui ait plus de compétences, plus de moyens, et une Europe qui s'adapte aux territoires. Alors ça ne veut pas dire qu'on remet en question les États, c'est simplement que...
Il y a une crainte là-dessus, on entend beaucoup de partis, on pense à la droite, la LR qui s'inquiète en disant voilà, si on fait une Europe fédérale, les partis disparaissent, les nations disparaissent, non pas les partis.
Non mais il y a des différences entre les régions, on le sait, des fois on peut être en Bretagne, on a des similitudes avec des régions plus celtes, et qui ne sont pas en France, mais pour le coup on peut avoir des similitudes en termes de culture, en termes d'enjeux territoriaux, en termes de... Voilà, on a, par exemple, une mer en commun. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on pourrait être plus spécifique en termes de législation, en termes avoir des politiques et des compétences, des moyens qui soient plus proches des citoyens, finalement. Parce que parfois, on a des choses qui sont appliquées au niveau national qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe au local. Et donc, on porte le plus possible une Europe fédérale, une Europe des régions, avec des régions fortes, un peu comme il en existe en Allemagne avec les Länder.
Est-ce qu'on ne craint pas, dans ce cas-là, un éloignement des centres décisionnaires? Est-ce que la région doit rester centre décisionnaire, ou est-ce que ça va se passer à Strasbourg et à Bruxelles?
Non, justement, avec des régions qui soient fortes, on reprend du pouvoir, finalement, parce qu'aujourd'hui, on est représenté en tant que voix française par par la France, notre représentant du gouvernement français. Or, il ne peut pas spécifiquement porter la voix de la Bretagne. J'en sais rien, par exemple, pour le train, on a eu des trains de nuit qui sont arrivés dans toute l'Europe. Le Grand Ouest est complètement oublié, par exemple. Alors, est-ce que la France a intérêt à développer plus le Grand Ouest? Pas nécessairement. Pour lui, c'est simplement avoir un accès à la France vers l'Union européenne. Nous, en tant que Bretagne, on aurait pu porter notre voix davantage si on avait un peu plus de pouvoir.
Voilà, donc le pouvoir, là aussi, est important pour pouvoir se faire entendre. Un dernier mot, on va parler d'immigration très rapidement. Aujourd'hui, on a tout un débat qui se cristallise autour de l'immigration. Alors, en quelques minutes, on n'aura pas le temps, évidemment, de tout aborder. Il nous reste à peine une minute. Mais aujourd'hui, on a une cristallisation du débat. Est-ce que c'est un faux débat? Est-ce qu'il faut penser à l'immigration de demain? On peut imaginer peut-être les réfugiés climatiques. On parlait du climat tout à l'heure. Est-ce qu'il va falloir que l'Europe repense son accueil des migrants?
Ah bah oui, c'est certain. On va pas mettre des murs, en fait. Mettre des murs, ça n'a jamais arrêté les personnes. Les personnes, elles sont dans un désespoir dans certains pays, en recherche d'une meilleure situation économique, humanitaire, beaucoup humanitaire, et climatique, de plus en plus. Aujourd'hui, si on n'est pas en capacité de prévoir l'accueil, et de un accueil correct, une intégration, on va au-devant de fractures au sein de la société.
Alors on entend des voix qui disent voilà c'est le grand remplacement, c'est voilà on a un conflit civilisationnel. Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes qui disent ça?
Bah, l'histoire de la France le montre hein, que on a eu des immigrations et la France est diverse, on est en capacité d'accueillir. Moi je pense qu'il faut quand même évidemment réguler. Il y a une régulation à faire. On peut pas ouvrir grand les portes et puis accueillir tout le monde. Ce qu'on souhaite, c'est déjà accueillir ceux qui sont là et qui sont dans le besoin et dans une situation de désespoir. Ne pas rejeter à la mer, parce que ça, c'est vraiment un sujet. Les personnes qui viennent par bateau, par des voies illégales, parce qu'il y a un sujet humanitaire qui est gravissime. Et puis, surtout, ce qu'on soutient énormément, c'est l'aide des pays qu'on dit en développement, entre guillemets, pour justement améliorer leur situation, leur redonner les capacités d'accueil, enfin de maintenir les personnes qui vivent dans leur pays de manière correcte.
Voilà, la coopération, l'aide. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Manon Gall, secrétaire régionale, les écologistes de Bretagne, merci infiniment d'avoir été avec nous ce lundi matin, en direct au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
Et tout de suite, nous allons feuilleter les unes de la presse, en commençant ce lundi par Presse Océan. Presse Océan qui nous parle du muguet, le brin de muguet face aux critiques. Et si demain nous n'offrions plus ce petit brin de muguet pour le 1er mai, dans un contexte d'urgence climatique, la culture de la fleur, symbole du 1er mai, est pointée du doigt par ses détracteurs qui y voient un non-sens écologique. C'est à lire ce matin dans Presse Océan et c'est pas sûr que ça fasse l'unanimité. Dans Presse Océan, toujours, le carnaval a fêté son roi. Le carnaval de Pornic a connu un beau succès populaire hier. Rendez-vous ce soir, nous dit Presse Océan, pour la suite de la fête. C'est à lire en page 20 de Presse Océan. Presse Océan qui nous parle également d'un couvre-feu aérien, des progrès jugés trop timides. Il s'agit bien entendu de l'aéroport de Nantes Atlantique. Vous pourrez lire le dossier en page 4 de Presse Océan ce matin. Presse Océan qui nous parle de sport aussi avec Saint-Nazaire VBA qui s'adjuge le titre. Les Nazériens sont devenus champions de France hier soir en disposant de Tours au 7 en or. C'est historique, nous dit le quotidien Presse Océan ce matin. Dans le télégramme européen, une photo, vainqueur à Rennes d'un derby au scénario renversé 5-4, le Stade Brestois décroche la première qualification en Coupe d'Europe de son histoire, la Ligue Europa ou la Ligue des Champions si vous préférez. C'est à lire en page 2 dans le Télégramme, mais aussi plus en détail dans les pages sport du quotidien. Le quotidien qui nous parle de rugby, le Spirit Braise, un certain état d'esprit zoom sur cette équipe féminine de Cornouailles. C'est à lire en cahier sport dans le Télégramme ce matin. Dans un tout autre style, le Télégramme nous parle de la dette souveraine. La France en sursis auprès des marchés. Le maintien au même niveau de la notation de la dette par les agences offre un répit à Bercy, mais ça n'est évidemment qu'un répit. À lire dans le Télégramme ce matin, le Télégramme qui nous parle de la Bretagne et du tourisme avec un pic attendu de visiteurs pour l'Ascension, c'est-à-dire également dans le Télégramme. Ouest-France nous parle de l'Europe, comment l'Europe se prépare à une pandémie. C'est une page spéciale dans Ouest-France ce matin. L'Union européenne et ses pays membres ont retenu d'importantes leçons de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Pas encore toutes, nous dit Le Quotidien. Et pour combien de temps? Explications et analyses à lire dans Ouest-France ce matin. Ouest-France qui nous parle des JO. Quel impact sur l'économie française? La question reste entière, c'est-à-dire en page 5 de Ouest-France ce matin. Ouest-France qui nous parle aussi de Rennes et de la cohabitation vélo-auto qui s'améliore lentement, même si ce n'est pas encore ça, c'est-à-dire dans Le Quotidien ce matin. Le Quotidien qui nous parle de sport, évidemment, et de la Ligue 1. 9 buts et un match fou au Roizen Park. Au terme d'un derby riche en rebondissements et en buts, le Stade Rennais s'est incliné sur le score de 4-5. C'est-à-dire en Carrier Sport, dans Ouest-France ce matin. Enfin, Ouest-France qui nous parle de cinéma et d'une comédie. Pierre Ninet dans la peau d'un réalisateur raté. Le comédien Igor Gottschman ont créé pour Netflix une nouvelle série comique qui s'appelle Fiasco, à découvrir dès demain sur vos petits écrans, et ça promet d'être rigolo. Ça, c'était pour la rime.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Et tout de suite, on va retrouver des informations avec Florian Lafont.
Bonjour, la ville de Châteauroux sous le choc ce matin après la mort d'un adolescent de 15 ans tué samedi dans une bagarre après avoir reçu des coups de couteau au thorax et au dos. Deux personnes ont été placées en garde à vue, un jeune afghan de 15 ans connu de la justice pour des faits de violence avec arme ainsi que la mère du suspect. Pour l'heure, les causes exactes de l'agression restent encore à déterminer. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Une nouvelle affaire d'adolescent tué alors que Gabriel Attal recevra en fin de journée les représentants de différents partis politiques. Le Premier ministre a lancé un projet de concertation pour parler de la violence chez les jeunes qui s'est multipliée ces derniers mois. Dans l'actualité également, c'est un enjeu de sécurité nationale. Bruno Le Maire a annoncé que l'État souhaite acquérir les activités souveraines du géant informatique français Atos. L'entreprise possède notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire ou encore des contrats avec l'armée française. Le groupe est actuellement en grande difficulté financière et a perdu 80% de sa valeur boursière en un an. Grosse frayeur pour les 200 passagers de la ligne Firminy-Lyon. Leur TER a déraillé hier et resté bloqué sur les voies après avoir heurté des cailloux à la suite d'un éboulement. Deux personnes légèrement blessées ont été prises en charge par les secours. Cela est sans doute dû aux fortes pluies qui ont touché la région lyonnaise ce week-end. L'autoroute A47 entre Lyon et Saint-Étienne a été coupée à la circulation par mesure de sécurité. Le foot, Paris, à la fête, le PSG est officiellement champion de France pour la 12e fois de son histoire après la défaite hier de Monaco à Lyon 3-2. Et puis le Festival de Cannes a dévoilé son jury. 8 personnes ont été désignées pour décerner la Palme d'Or le 25 mai prochain et parmi elles on retrouve 2 acteurs français, Omar Sy et Eva Green. Cette année la présidente de cette 77e édition sera la réalisatrice du film Barbie, Greta Gerwig. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne matinée à notre écoute.
Merci Florian Lafont qui revient tout à l'heure à 9h pour un dernier point sur l'actualité. Mais tout de suite à 8h52 et juste avant de retrouver Meredith Lodez et sa bulle poétique qui refermera notre matinale, eh bien on va retrouver Alexandre Hervé et le classique du matin.
Nous écoutons ce matin l'une des plus célèbres musiques de films de l'histoire, celle du Seigneur des Anneaux.
Thank you.
la musique du Seigneur des Anneaux de Warchor dans le classique du matin d'Alexandre Hervé. Alexandre Hervé qui revient demain dans la matinale. Et bien entendu, vous pouvez retrouver le classique du matin en podcast sur le site de Bretagne 5. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h58. On va refermer notre classique du matin, notre matinale en l'occurrence, que nous avons ouvert à 7h avec notre nécessaire bulle poétique. C'est Meredith Lodez qui dit cette semaine des poèmes d'Erwan Rouget, extrait de son recueil « L'enclos du vent ».
La bulle poétique. Meredith Lodez.
Bonjour, cette semaine, la bulle poétique est consacrée à Erwan Rouget et à son recueil « L'enclos du vent » paru aux éditions Isabelle Sauvage en 2017, accompagné des photographies de Magali Ballet. Ce que l'on entend dans la résine, ce qui fend le laiteux de la brume, le vent ne l'écrit pas. Défait tout ce qu'on sait de la chevelure des ronces, lèche la fraîcheur d'une fêlure dans les veines. La transparence d'orage plus proche à la lisière du bois. L'oiseau y enfouit son bec.